stops you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Como, Muriel Joudet, Antoine Guillot pour parler ensemble de Roubaix, une lumière, Oh Mercy, d'Arnaud Depluchin. Une fille facile de Rebecca Zlotowski, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, et puis il y aura un coup de cœur. Antoine Guillot, il n'a pas changé, c'est toujours Once Upon a Time in America?
Étonnamment, oui.
Ah, étonnamment, c'est le film de Quentin Tarantino. Nous ouvrons cette dispute avec le nouveau film d'Arnaud Desplechin, à la fois chouchou et mal aimé, du Festival de Cannes. C'est quand même la sixième fois que le cinéaste se retrouvait en compétition officielle. Et comme les cinq fois précédentes, il est reparti de la croisette sans aucun prix. Ça va être une sorte de record, je pense, à ce niveau-là. En haut de l'affiche de Roubaix une lumière, Roche Dizem, commissaire donc à Roubaix, solitaire, peu loquace, qu'on va suivre dans son quotidien jusqu'à ce qu'au milieu du film, on retrouve une vieille dame assassinée. On va alors s'intéresser à ses deux voisines, les voisines de la vieille dame, déjà aperçues dans la première partie du film, voisines interprétées par Léa Seydoux et Sarah Forestier.
Commissaire Daouda, Central.
Il y a un véhicule en feu rue du Grand Chemin vers le numéro 100.
Je veux aussi la perte de l'identité judiciaire d'ici une heure.
C'est bien reçu pour PC. Et joyeux Noël, patron.
Ouais, joyeux Noël.
Oh, c'est bon.
Allez, donne tes mains, là.
Non.
Pourquoi tu cours, Farid?
Pour 20 euros, viendra en braquer. L'année dernière, 5 braquages. Les scandales, les bagarres.
Reste assis.
Pour notre nouveau lieutenant Cotterelle, un incendie criminel rue des Vignes. Voilà, ce sera tout, merci.
Cause du décès?
Les traces de strangulation sur le cou.
C'est un meurtre.
Vous avez vu quelque chose?
Comme j'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir.
Vous vivez seul ici?
Avec une amie.
Bonjour.
C'est la police de Roubaix.
Il y a déjà eu des soucis avec des jeunes ici qui venaient dealer.
Des jeunes qui viennent foutre la merde, il y en a plein.
Vous pourriez les reconnaître?
Moi j'ai un gars de 26 ans. Alors, même si je les reconnaissais, je dirais pas. Il y avait le premier, ça c'est sûr.
Tu crois que tu vas m'attraper pour un crime ou quoi?
Brûler une maison, c'est un crime.
Mais sur la tête de ma petite sœur que je l'ai pas brûlé la maison!
Vous avez des suspects pour la maison brûlée?
Ouais, ça commence. Vous savez toujours vous si un suspect est coupable ou innocent?
Toujours.
Tu n'es pas noté sur les résolutions de cas. Tu es noté si tu maintiens l'ordre. Alors maintiens l'ordre.
C'est pourquoi faire que vous me gardez?
On va se parler un petit peu et ensuite, vous pourrez rentrer chez vous.
Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Dépêche-toi.
Vous allez pas me croire.
Pas avec moi. Pas avec moi, Claude.
Je suis sur la tête de mon gosse que je peux rentrer dans ma
maison. D'accord.
Et c'est quand que Claudia va venir? J'ai dit tout ce que je pouvais vous dire. Tout ce que j'ai vu, tout ce que je sais.
Alors je ne sais pas de quoi Muriel Joudet et Lucille Como parlaient pendant que nous écoutions cette bande-annonce, mais je vais leur demander, non pas de me dire ce qu'elles étaient en train de se raconter, mais de donner un résumé de votre sentiment à propos du film, d'abord Muriel Joudet.
Pour moi, c'est une sorte d'échec révélateur du cinéma de Desplechin.
Antoine Guillot.
Pour moi, c'est une nouvelle direction qui est plutôt une réussite.
Et Lucille Como.
Je pense que j'aurais pu dire exactement la même chose qu'Antoine.
Ah.
Donc je l'ai dit.
Eh ben alors, enchaînez. Développez cette idée.
Je trouve que c'est un film intelligent qui réussit à tenir du moins dans la première partie. Je ferai une distinction assez nette entre, disons, la première heure et la deuxième heure. À lier à la fois la forme de la chronique sociale et de la chronique policière. Donc la chronique de commissariat avec ses scènes assez attendues à l'intérieur du commissariat, les scènes d'enquête, la forme chorale que prend le film dans un premier temps où on alterne de manière très classique les enquêtes. Le naturalisme d'autre part qui est affiché presque comme une devise dès le départ puisqu'il est inscrit à l'orée du film que tout est vrai et de fait le film...
Enfin que les crimes racontés sont vrais.
Oui, tout à fait.
Pas que tout est vrai.
Ah, je croyais qu'il y avait de la...
Bah, c'est quand même une nuance importante, oui, oui, petit. Pardon de vous corriger, oui. Mais il me semble que...
Oui, bon, il se trouve après dans l'histoire du film qu'il a été... Ce film est une lointaine adaptation d'un documentaire qui avait beaucoup impressionné Arnaud Desplechin sur, en effet, des affaires courantes à Roubaix, dont l'une avait été particulièrement impressionnante puisqu'à la télévision avait eu lieu des aveux, en l'occurrence de deux jeunes filles. Ça, je trouve que c'est bien articulé, et c'est bien articulé, à mon avis, grâce à un tiers actant qui est assez cher à Desplechin, qui est une sorte de substrat, on va dire, mystico-religieux, qui réussit à lier le tout, même si c'est vrai qu'il y a des choses extrêmement disparates. On en parlait hors antenne, il y a vraiment des acteurs qui sont... dirigés comme de grands acteurs, avec tout ce que ça peut supposer d'excès, on en reparlera j'imagine, et des acteurs qui sont des acteurs non professionnels. Il y a une partition évidente, mais qui est assumée dès le départ, entre un quatuor, disons, formé par Sarah Forestier, Léa Seydoux, Antoine Reinhardt, et je ne me souviens plus de son nom.
Ça,
le commissaire.
Et Roche Dizem.
Voilà, Roche Dizem.
C'est quand même dommage que ce ne soit pas le meilleur élément de ce film.
Voilà, bon, on en reparlera. Et les autres acteurs... Ça peut poser presque un problème éthique au départ, parce qu'il y a une forme un peu...
Il y a Bruno Locher qui est aussi voilà, professionnel.
Oui, tout à fait. Mais bon, il y a quatre personnages qui surnagent au-dessus d'une sorte de mêlée naturaliste. Et je trouve que le film réussit, j'ai même du mal moi-même à l'analyser, à faire le lien de manière assez convaincante.
Muriel Jodet sur Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin.
Alors moi, j'aime beaucoup Desplechin. Et quand je parle d'échec révélateur, c'est que je me suis rendu compte devant le film... qu'il ne peut pas faire un polar, ou en tout cas, je me suis rendu compte des limites de son cinéma. Desplechin, c'est quelqu'un qui a en horreur le réel, la vie telle qu'elle est, qui fait du cinéma comme un récit vengeur, comme il dit, contre ça, qui fait de la fiction, qui fait du romanesque. Et alors, forcément, quand il fait un polar, il le fait comme ça. Tout est déliré, tout est faux, en fait. C'est ce qu'il aurait dû dire au début du film. Tout est absolument faux. Et le terrain du naturalisme ne sera jamais le sien, contrairement à ce qu'il essaye peut-être de nous dire dans le film, même si je pense qu'il y a plein de fausses pistes dans le film. Là où pour moi, alors j'ai lu sa note d'intention qui est toujours très belle, mais qui pour moi ne me renvoie pas du tout. Les notes d'intention de Desplechin sont toujours...
Tout à l'heure, et j'avoue que je me suis demandé de quel film il parlait.
Voilà, c'est exactement ça le problème. Ça ne renvoie pas du tout au film qu'on voit, parce qu'il ne parle à l'intérieur que de ce fait réel, que de ce documentaire, que du faux coupable d'Hitchcock, parce que Hitchcock a fait donc ce film à partir d'un fait divers, ou d'un seul coup, Hitchcock en fait met fin à la stylisation hitchcockienne pour s'arrimer aux faits divers, au réalisme social. Ce que Desplechin n'arrive pas du tout à faire. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas du tout la chronique sociale dans le film. Je ne vois pas Roubaix, je ne vois pas la pauvreté. Ce sur quoi il insiste dans la note et ce sur quoi la critique aussi insiste, je ne vois jamais de percée, de trouée de réel, de rugosité du polar. Je vois un monde abstrait, je vois le cerveau de Desplechin. Donc, à partir du moment où cette dimension-là est, disons, inopérante dans le film, j'ai passé mon temps à me demander mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire ? Où est la nécessité de ce film ? Quel est son véritable désir ? Et ça, je l'ai trouvé au prix d'une énorme pirouette théorique.
Attention.
Alors, peut-être que je vais pouvoir la dire après ou maintenant, c'est comme vous voulez, mais je me suis...
On a envie de la connaître maintenant.
Bien sûr. En fait, je me suis dit, à la fin du film, c'est assez frappant, en fait, que c'était un film sur les acteurs, tout simplement, avec une première partie où, en fait, c'est un casting. C'est des policiers qui rencontrent des acteurs et qui leur font passer un casting. Et on cherche le vrai coupable, mais ce coupable, en fait, c'est un énorme casting d'acteurs. Et la deuxième partie, qu'est-ce que c'est ? C'est un tournage. Donc, on a trouvé les acteurs, on a trouvé les coupables et on leur fait répéter des scènes à l'infini, ad nauseam. Il est même dit à un moment, elle est assez doux, tu vas jouer toi-même. Et c'est aussi un film sur acteurs professionnels, acteurs non professionnels ou en tout cas moins connus. Et bon, je finis là où, à mon avis, l'erreur de Desplechin est de croire que ces acteurs professionnels sont plus intéressants que ceux de la première partie qui sont beaucoup plus passionnants.
Bon, j'attendais une autre pirouette, moi, parce que celle-là, elle est quand même assez fléchée.
Non, mais
oui,
c'est fléché, mais il faut quand même, pour apprécier le film, il faut en passer par ce stade qui, pour moi, est un peu à la fois...
Quand bien même. L'apprécie-t-on avec cette pirouette ?
Non.
Je le dirai dans un instant. Antoine Guillot.
Ouais, moi, je suis assez d'accord. C'est un film sur la représentation, en tout cas, et peut-être moins le cinéma que le théâtre, pour le coup. Moi, j'ai beaucoup plus l'impression, d'abord, que Desplechin va s'emparer d'un texte, c'est-à-dire...
Oui, c'est ce qu'il raconte, ça.
Oui, mais ça joue...
C'est pas parce qu'il raconte que c'est ce qu'il fait.
Bah écoutez, moi j'ai pas lu ce qu'il raconte. Bon. En l'occurrence, non mais vous rigolez, je l'ai vraiment pas lu. et c'est le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire que le naturalisme pour moi était une fausse piste absolue. Tout ça sonne faux, c'est-à-dire que ce sont des apparences. Je vais faire un genre qui est pas seulement le polar, mais que le film social à la française ou à la Desplechin ou à autre. Et il va en faire complètement autre chose. Moi, le carton m'a frappé dès le départ. Donc, il dit effectivement ici tous les crimes, sont vrais. Les personnages ont existé. L'histoire se passe de nos jours. Alors, je me dis, mais tiens, ça me fait quand même penser à quelque chose. Et le film est moins un remake presque du documentaire d'origine que complètement imprégné par la pensée et par le cinéma de Lanzmann. On sait depuis longtemps que Desplechin vénère Claude Lanzmann, et le personnage de Daoud, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, pour faire surgir une vérité qui serait pas la cause de tout ça, enfin voilà, la fameuse question du pourquoi, du comment, etc., mais qui va faire, sur les lieux, refaire les mêmes gestes pour que quelque chose advienne et qu'une parole se libère. Alors, on pourrait dire que c'est complètement théorique. Évidemment, ce film n'est pas à la hauteur de Shoah, et aussi parce que les crimes en question ne sont pas de même nature et de même profondeur, mais un geste se fait que je trouve extrêmement beau. C'est-à-dire cette scène qui est à la fois une direction de théâtre permet de faire sujet. Alors c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement théorique, c'est-à-dire la vérité qui surgirait de la répétition, une vérité qui surgirait d'une actrice, d'une Léa Seydoux ou d'une Sarah Forestier jouant des personnages qui ont réellement existé et qui n'ont rien à voir avec leur vie réelle. Et pourtant, quelque chose de très beau se passe à cause précisément du personnage de Roche Dizem, de ce personnage d'un calme absolu, qui est l'antithèse absolue de tous les polars, de toutes les manières de représenter la police. C'était très curieux de le voir, j'imagine qu'on en reparlera à la dispute quand il sortira, Les Misérables de Lajli, qui a une structure presque comparable, c'est-à-dire un jeune bleu qui débarque dans une équipe qu'il ne connaît pas, dans une ville qu'il ne connaît pas. Tout le début du film, on va lui montrer la ville, différentes histoires, et puis on va se focaliser sur une. Sauf que le film de Lajli, qui a beaucoup de qualités par ailleurs, est dans une hystérie permanente et dans une façon très brutale de représenter à la fois la police, la population, mais dans une façon très brutale de regarder aussi. Et le calme de Roche Dizem contamine aussi le film qui est presque un mélodrame. La musique est là en permanence. Là encore, ça casse tout le côté naturaliste du film. Et moi, qui n'aime pas, vraiment pas en général, la musique omniprésente, ça a souvent été un critère de dégoût pour des films. Moi, m'emporte justement sur le côté, alors je parlais de théâtre, mais on est presque à l'opéra par moment. On est emporté par cette musique qui pousse la mise en scène.
Ah oui, moi cette musique m'a de fait insupporté, notamment dans cette deuxième heure. Moi je sais pas ce que va dire Lucille Comeau dans un instant, mais c'est vrai que pour moi il y a deux films dans le film, en tout cas une première heure que je trouve assez passionnante, qui est un documentaire sur Roche Dizem, Michael Mann à Roubaix, l'intériorité, la voiture, une façon de filmer très près du visage, enfin il y a un personnage qui dessine avec plein de mystères, des bouts de vie qui apparaissent comme ça, et il y a cette deuxième heure où Sarah Forestier et Léa Seydoux vont prendre toute l'importance, et Sarah Forestier, pour moi, va tomber dans tous les travers qu'elle avait déjà pu montrer avant dans d'autres rôles, d'un surjeu mais épouvantable. Enfin, moi j'ai une réaction totalement épidermique face à ce jeu-là. Et c'est vrai que j'entends bien la question du casting, de la représentation, du choix des comédiennes, mais ça manque terriblement de tension. Et c'est pas cette musique qui est une scie qui va en apporter, en plus qui est quand même un vague plagiat de Wagner, mais bon. Il faut avoir des bonnes sources. C'est long, c'est la plupart du temps ennuyeux, c'est souvent exaspérant. Et puis après, il y a les signes des Desplechin quand même, avec le commissaire qui a une affiche d'une expo de Bérénice Abbott dans son bureau. Le lieutenant, il a du Lévinas dans sa bibliothèque. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Lucille Comeau.
Mais bon, on en reparlera peut-être pour Une fille facile après. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans le côté très cérébral du cinéma de Desplechin qui s'assume, et c'est un côté très littéraire. Moi, je vois pas du tout de contradiction par exemple entre la forme naturaliste et l'extrême stylisation. Pour moi, la musique fait partie du projet naturaliste, du moins dans la première partie. Et je vois Roubaix, moi, pour le coup. Je vois ces espèces de courées qui apparaissent dans de la fumée au départ avec les lumières des guirlandes de Noël. C'est vrai que le Roubaix, il s'exprime par exemple peut-être le mieux dans une voix off qui est extrêmement écrite, qui est probablement du même acabit que le texte de Desplechin que je n'ai pas lu non plus et qui est porté par le personnage.
Le texte de Desplechin dans le dossier de presse est très beau. La voix off, elle est quand même.
Ah, moi je la trouve très
compliquée.
Moi je la trouve très belle. En fait, moi j'aime le fait que Desplechin, dans une forme qui quand même réussi, à mon avis, à l'endroit du naturalisme, créer une forme littéraire qui regarde, bon, évidemment, moi j'ai pensé à Dostoïevski tout du long, et par exemple, je trouve que cette référence n'est pas écrasante. Je trouve que c'est déjà très difficile de réussir à faire un film, un Crime et châtiment, sans être complètement écrasé par la référence. Je trouve que la transposition fonctionne. À l'inverse, je suis pas du tout, moi, convaincue, au contraire, par le personnage du policier dont vous parliez, Antoine. Moi, je trouve au contraire que c'est là qu'il y a un problème notamment de cliché, parce que on le connaît quand même, ce policier qui vit seul, qui donne du lait à son chat au début du film, qui va dans
des
un bar.
Des chats du quartier, ce sont pas ses chats.
Départ complètement.
Ils sont trois.
Moi, là, j'ai eu du mal avec les espèces de références au genre. Je trouve que c'est trop. Et le personnage m'a agacée de plus en plus. Je trouve que sa position d'accoucheur avec les deux jeunes filles devient assez pénible. Et que c'est là que le côté potentiellement moralisateur, justement, de tout le mysticisme qui se met en place dès le début, devient pénible. Vraiment, pour moi.
Ce qui vous a déplu, c'est ce qui m'a plu. On est assez complémentaires, vous et moi, Lucille. En réaction à ce que... Parce que c'est vous qui avez interpellé Antoine.
Oui, mais moi, je pense que là encore, il y a des fausses pistes. Pour moi, ce personnage est très inquiétant. C'est-à-dire, c'est ce grand calme qui domine par la prestance, par la parole. En fait, on peut le voir lui-même comme un personnage enfin, terrifiant, manipulateur. Ce sont toujours les grands calmes dont il faut le plus se méfier. C'est-à-dire, on joue avec les clichés, là encore, comme dans le mélodrame. C'est-à-dire qu'on prend un personnage très identifié et qui a un côté très simnonien par moment. Enfin, c'est Maigret sans sa femme, quoi. Moi, je le trouve terrifiant. Et cette inquiétude-là renverse sans arrêt. De ce fait, je trouve qu'il est filmé presque avec plus d'inquiétude que ne sont filmés ces misérables, misérables criminels.
Muriel Jodet.
Et pour moi, c'est pas assez sale pour que quelque chose existe, à la fois la chronique sociale, le bien et le mal, toute la réflexion qu'on est censé avoir devant le film. Et c'est pour ça que quand je disais pirouette théorique, c'est que pour moi, ce n'est vraiment que de la théorie. Et je pense qu'il y a quelque chose de très pervers et de très théorique, mais parfois c'est la même chose chez Desplechin, dans le fait de prendre des actrices connues pour jouer deux toxicomanes. Alors c'est peut-être les exigences, voilà, à un moment, faut que le film soit vu, donc faut mettre des stars, mais... Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément aux acteurs. Je me demande s'il les aime bien, par ailleurs. Je pense qu'il utilise les deux actrices un peu comme Kechiche ferait avec Léa Seydoux, c'est-à-dire en ne l'aimant pas.
Je pense que c'est pas pour rien qu'il a pris Sarah Forestier et Léa Seydoux.
C'est une évidence qu'il a pensé à Kechiche.
Il aimerait être Kechiche, mais il ne sera jamais.
Voilà. Et c'est une évidence. Desplechin dit « je n'ai pas pensé à Kechiche ». Moi, je pense qu'il y a pensé dès la...
Ah, il dit ça ?
Oui, non, mais c'est Desplechin. Il joue les innocents alors qu'il n'y a pas plus... théorique, intelligent et pervers que lui. Et donc pour moi, faire jouer des toxicomanes comme ça, des pauvres par deux stars, il y a presque une volonté que le film échoue sur le terrain de la chronique sociale.
Antoine.
Là encore, mélodrame. Oui. C'est vraiment, on va prendre des stars pour faire jouer des pauvres femmes à qui arrivent des choses terribles et qui, de ce fait, vont commettre elles-mêmes des choses terribles. Ça, c'est un principe de convention.
Ouais, ouais.
Et c'est pour ça que, pour moi, là encore, on s'échappe totalement du naturalisme.
Oui, encore faut-il être capable d'endosser ces rôles. Lucille Comeau.
Mais justement, moi, je pense que c'est cette perversité-là qui m'a intéressée dans la première partie et dans la deuxième partie, à mesure qu'elles prennent une autre ampleur et qu'elles sont utilisées quand même assez différemment, ça perd en intérêt, vraiment.
Allez voir par vous-même ce film d'Arnaud Desplechin qui s'appelle Roubaix, une lumière, qui est bien sûr en salle en ce moment. Nous allons continuer cette dispute en parlant d'une fille facile de Rebecca Zlotowski, d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Et Antoine Guillot nous parlera de Once Upon a Time in America de Quentin Tarantino.
In Hollywood.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
In Hollywood. Donc, non pas une Américaine. Mais à force de vouloir faire des clins d'œil partout, évidemment, on risque de voir le titre de son film écorché. Bien fait, Quentin. Suite de cette dispute, avec un autre film présenté à Cannes cette année, un film dont l'action se déroule d'ailleurs à Cannes, Le Temps d'un été, où nous allons rencontrer Naïma, 16 ans, qui ne sait pas très bien ce qu'elle veut faire dans sa vie, comédienne, peut-être, comme son meilleur ami. En tout cas, sa cousine, Sophia, va venir partager ses vacances.
Joyeux anniversaire, ma belle.
Merci.
Bon anniversaire. Oui.
Sophia,
qu'est-ce que t'as changé?
Ma petite cousine chérie. Ah, comme on est bien.
Toi, tu sais ce que tu veux faire?
Oui, comédien.
C'est bien, et toi?
Pareil.
Ouais.
L'hôtel qui vous a appelé pour ton stage, laisse-moi vivre un peu.
Sous les grands cocotiers qui se...
C'est votre bateau ?
T'aimes pas les vieux, non ?
En silence, nous rêvons de nous.
Moi, l'amour, ça m'intéresse pas. On doit tout provoquer par nous-mêmes.
C'est la première fois que tu fais du bateau alors que t'habites à Cannes ?
Bah oui, il y a une première à tout. En fait, t'es une chef. T'as jamais pensé à devenir une chef ?
Tu veux faire quoi dans la vie ?
Tu crois que Sophie, elle est libre ?
Elle l'est pas.
Tu sais, la liberté, des fois, c'est du travail aussi.
Une fille facile de Rebecca Zlotowski, un premier sentiment synthétique sur ce film, Lucille Como ?
C'est vraiment pas un film qui m'intéresse beaucoup, je le trouve vraiment trop maîtrisé.
Muriel Jodet ?
Romer, totalement dévitalisé et presque trahi, quoi.
Antoine Guillot ?
Et s'il n'y avait que Romer ? Non, une fois encore, les intentions, bonnes ou mauvaises, ne font pas des films.
Bon, j'ai du mal à savoir qui a le moins pas aimé ce film. Alors tiens, je vais commencer pour une fois. Je vais essayer de donner une note un peu plus positive parce que moi c'était un. Alors, on l'a vu avant l'été, nous étions ensemble, le site Como. Moi, c'était une bonne surprise d'abord quand même pour Zaya Dehar, mais aussi et surtout pour Benoît Magimel, que je trouve quand même de plus en plus magnétique à l'écran à mesure que les années passent. On y reviendra peut-être. Le film a son rythme propre. Il cherche pas à brusquer les situations. Et je trouve que en cela, il est quand même, il absorbe bien le temps de l'été. C'est une sorte de chaleur, d'indolence, de tentation. Et pour vous donner aussi quelques éléments pour me contredire, il me semble qu'il n'y a pas de surplomb dans ce film-là, et je trouve que ça fait plutôt du bien, ce qui fait sourire Muriel Jodet, qui va enchaîner.
Non, il n'y a pas de surplomb. Enfin, y a
la maîtrise, comme le disait Lucille Como.
Non, il n'y a pas de surplomb parce qu'il n'y a pas de maîtrise. Parce qu'en fait,
d'accord, vous n'êtes pas d'accord en plus. Bon.
Dans La Collectionneuse, parce que le film, vraiment, on peut les comparer, c'est un remake de La Collectionneuse. Il y a la même...
Collectionneuse, c'est un film d'Éric Rohmer, je précise, pardon, voilà. Quand même.
Disons que Rebecca... Pardon ?
Qui date de 69, 7, 9, 67. D'accord.
Et en tout cas, Zlotowski essaye de mettre la même dialectique à l'œuvre que dans le film de Romer, c'est-à-dire qu'on passe d'un point A, c'est-à-dire ah, quel bimbo écervelé, hyper sexualisé, pas intéressante, à un point B, ah, c'est plus compliqué que ça, elle a un mystère, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle est. Et pour moi, on passe vraiment devant, quand on voit le film, d'un point A à point A. Il n'y a pas d'évolution du regard sur Zaya de la part de Zlotowski elle-même. Donc, de notre part, ça ne peut pas non plus fonctionner. L'échec moral du film, parce que c'est vraiment ça, c'est un échec moral, est intimement lié à l'échec esthétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en scène. Les dialogues sont complètement téléphonés. On pourrait, on s'attend exactement, on prédit absolument tous les dialogues. Il n'y a pas d'évolution de personnage. Il n'y a même pas de personnage à mes yeux. Personne n'est existe, il n'y a pas de rapport entre les personnages. Alors soit ils sont désagréables, soit ils sont inexistants. Et le seul moment où on se dit « Ah là, il y a peut-être quelque chose que Zlotowski essaye de nous dire », c'est quand Zaya ouvre la bouche. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle parle, ce n'est pas une impulsion du personnage, c'est de la ventriloquie de la part de Zlotowski. Et Zlotowski, en fait, elle a peur de son propre film. Elle a peur de jouir trop du corps de Zaya. Elle a peur de faire un film d'été idiot, sans discours. Elle a peur, en fait, de l'absence de discours. Donc elle a peur du cinéma quelque part. Et donc tout ce côté, comme vous dites, film d'été, sensuel, érotique, parfois ça marche, enfin, c'est opérant. Zaya, moi je la trouve excitante en dehors de son visage. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne. Mais pourquoi se sent-elle obligée de quadriller cela par un discours qui vient doubler ce qu'on est censé voir au cinéma? C'est un aveu d'échec absolu. J'irais même plus loin, je dirais même que ce discours prétendument féministe que le film avance et qui est ventriloqué par Zaya, disons, agit contre le film et même sacrifie absolument et totalement Zaya, qui n'est plus qu'un outil, qui est sacrifié en fait sur l'autel de l'ère du temps, du discours post-MeToo, etc. Pour moi, c'est très violent
ce qui se passe dans le film pour Zaya, qui par ailleurs ne m'intéresse pas, mais ça j'en parlerai après, qui pour moi n'est pas une actrice. C'est-à-dire qu'on en parle comme d'une Brigitte Bardot, alors que c'est absolument tout le contraire.
Je sais pas ce que ça veut dire tout le contraire, Brigitte Bardot, mais vous développerez, mais on va laisser parler vos petits camarades, mais la ventriloquie, elle est quand même présente dans l'histoire du cinéma il y a des centaines de films où des interprètes principaux sont les ventriloques des metteurs en scène, donc je vois pas bien où est la critique, là.
Non, c'est juste que pourquoi est-elle obligée d'être à la fois... C'est-à-dire, elle ne peut être une bimbo qu'à la condition d'avoir un discours autoréflexif sur elle-même, d'avoir un discours bien senti et intelligent. Bon, laissez-la tranquille, laissez-la être une bimbo. Même en interview, elle est obligée de citer Buñuel pour plaire.
Vous confondez la comédienne et son rôle, là, il me semble.
Le film a fait ça. Le film, c'est
pas... Alors, si vous n'avez pas vu le film, alors, je pense.
Non, c'est la même chose.
Lucille Como.
C'est la naissance d'un corps au cinéma, sauf que ça marche pas.
Lucille Como.
Non, je suis assez d'accord avec Muriel. Peut-être je le dirais différemment. En fait, je trouve que c'est un film qui ne cesse d'anticiper toutes les questions qu'on pourrait poser à son sujet, et notamment en effet le jeu de Zaya Dea. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut, ça ne cesse de déminer des choses, et à force de déminer des choses, ça les montre. Et donc du coup, on se pose en permanence la question de la morale, de la misogynie, de l'adaptation de ce film dans un contexte, de l'utilisation de l'actrice, parce que le film fait ça. Moi, j'étais tout à fait disposée à voir un film avec Zaya Dehar sans me poser la question de son jeu particulièrement. Le problème, c'est que le film ne cesse de pointer ça en essayant de pas le faire. Alors du coup, ça passe par en effet un quadrillage, une grille qui est assez claire, même structurellement dans le scénario. Il y a des axes verticaux qui sont d'ailleurs mis en scène de manière assez lourde, qui sont les questions de classe, en gros, avec donc ce personnage qui est son faire-valoir, la cousine, qui se retrouve à faire la navette entre deux milieux grâce à elle. Donc le milieu de sa mère qui est femme de chambre dans un hôtel et l'hôtel en question. Il y a une scène qui est à mon avis d'une lourdeur incroyable où la jeune fille se retrouve dans un téléphérique qui sert à aller de la plage à l'hôtel, où elle croise en surplomb le regard de sa mère. C'est d'une lourdeur absolue. Et la grille horizontale qui est cette espèce de parallèle qui à mon avis est d'une artificialité totale entre justement Naïma et Sofia. Entre ces deux jeunes filles, Naïma, elle n'existe jamais. C'est quand même un gros problème, alors que pour le coup, cette actrice qu'on ne connaît pas, on a quand même assez envie de la voir. En plus, on en reparlera peut-être, mais cette actrice-là, elle pointe vers un autre cinéma d'été. Bon, on parle de Kechiche décidément tout le temps, mais c'est difficile à soutenir, je trouve, la comparaison. Moi, j'ai vraiment eu un problème d'éthique, de morale, alors même que j'étais disposée à ne pas en avoir. Je ne sais pas exactement comment vous le dire. Ce personnage me gêne quand même profondément. Et pour le coup, je ne suis pas d'accord avec vous, Muriel, sur l'actrice, son ton, tout ça, même si c'est archi construit et même si c'est une construction de la metteuse en scène, ça m'intéresse. Mais alors, ne vous excusez pas de faire ce film, ne théorisez pas tout. Il y a l'exergue pascalienne des calypso qui font référence à l'Odyssée et je te mets des airs de Didon et Énée. Tout ça est trop lourd. Il y a quasiment des dissertations de philo dans ce film sur la valeur, la gratuité, le travail. C'est très très lourd.
Et de la voix off du Desplechin. Excusez-moi, j'étais. Non, mais parce que ce que vous aimez problème, chez l'un, vous le reprochez à l'autre.
Moi, j'aime beaucoup Benoît Magimel, mais Benoît Magimel, il joue le rôle d'un prof de philo paumé sur un yacht. Enfin, c'est vraiment ridicule. Le type n'arrête pas.
C'est mieux un lieutenant qui dit Lévinas.
Des sujets de terminale. Vraiment, j'ai noté. Voilà, la liberté, c'est du travail. Enfin, non.
Antoine Guillot.
Oui, j'ai peur de rajouter encore.
Encore
une couche.
Vous reprochez au film de traiter son sujet, donc, si je résume un peu.
De montrer qu'il traite son sujet.
Alors, précisément, moi, je lui reproche de ne pas le traiter.
mettez-vous d'accord.
Pour le coup, c'est-à-dire qu'il y a quand même le sentiment qu'il y a un coup, au départ, qui est, qu'on le veuille ou non, de filmer Zaya Dehar.
Un coup ou une rencontre? Pourquoi c'est tout de suite péjoratif?
Ou alors,
c'est soupçonneux?
C'est pas péjoratif.
Alors,
ça
dans le meilleur
vrai,
non, mais
un coup, c'est péjoratif.
Ou alors, dans le meilleur des cas, on dira une rencontre. Bon. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai le sentiment qu'elle est complètement dépassée, Rebecca Zlotowski. On parlait, alors c'est pas moi le premier à avoir sorti Kechiche, mais il me semble que ce film voudrait une réponse, entre autres, au corps d'Ophélie Beau chez Kechiche et à sa manière de le filmer. Sauf que d'un côté, on a un corps charnel qui a une épaisseur de vie, et de l'autre côté, on a une construction. Parce que le corps tel qu'il est montré de Zaya Dehar, que ce soit sa figure ou l'ensemble de son corps, c'est une construction qui est faite par la chirurgie esthétique. Et il est très frappant qu'il y a une scène à un moment, juste après le moment où on va montrer que Sissi, elle a lu Duras, parce que la preuve, elle arrive à citer des titres, qui est d'une grossièreté, je ne dis pas de vulgarité, hein, d'une grossièreté dans les moyens, dans la lourdeur dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, c'est la scène où on va montrer qu'en fait, elle est cultivée et qu'elle ne cite pas du reste comme ça. Donc, c'est très maladroit, je trouve, comme scène.
Vous avez l'air tout à fait d'accord.
Elle a le droit d'être une bimbo qui a la condition d'avoir lu tout du reste. Et dans cette scène, on n'est ni du côté de Zaya, ni du côté de Clotilde Courau.
On sent juste l'épaisseur. C'est-à-dire, les ficelles se voient. On aime bien, de temps en temps, en voyant un film, oublier comment c'est fait et pourquoi c'est fait. Et là, je le vois. Et juste après, le personnage de Clotilde Courau va lui poser la question, mais quand même, toutes ces opérations, etc. Et le personnage joué par Zaya Dehar va évacuer, va faire tout pour ne pas répondre et parler d'autres choses. Et pour moi, le film est tout dans cette scène. C'est-à-dire, effectivement, elle ne sait pas quoi faire de ce corps qui est spectaculaire, mais comme un spectacle, là encore, entièrement fabriqué. J'aurais adoré voir un film qui se centre sur cette question-là. Alors, il suffit pas de la filmer, parce que non seulement ça l'orne vers la collectionneuse, mais elle va reprendre exactement les mêmes plans au départ, je me suis dit, mais là, c'est pareil, ça me rappelle trop la collectionneuse pour que ce soit innocent. Donc, j'ai revu hier soir le début de la collectionneuse, et on a le même plan en plongée sur la plage avec cette fille qui sort de l'eau, la même manière de la filmer en découpant le corps, et ça devient purement un exercice presque d'école de cinéma. C'est-à-dire qu'on ferait, tiens, on referait le début. Et puis, alors, on va jouer avec la référence au mépris, puisque forcément, dès qu'on va dans une villa, sur une magnifique villa italienne, on va penser à ça. Alors, on va citer, mais alors on va l'accommoder à la sauce du consentement mutuel explicite. Alors, ça devient plus, tiens, mes fesses, ça devient, tu aimes quand je mets mon doigt là. Oui, alors voilà. mais c'est sans arrêt. On ne voit que les morceaux. Et ça ne fait pas un film. On ne voit que les diverses intentions. On pourrait citer, il y en a certainement beaucoup de références qui m'échappent, qui doivent être certainement détaillées dans le dossier de presse. C'est un exercice purement pratique, mais une façon d'esquiver. Ce film pourrait s'appeler l'esquive, en fait. Comment je n'ai pas filmé Zaya Dehar.
Bon, je me retrouve à défendre ce film que je ne tiens pas en si haute estime que ça, mais je vous trouve d'une telle dureté, parti pris. C'est terrible, parce que tout ce qui pourrait être à décharge pour d'autres est à charge ici. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait, dans vos critiques conjuguées.
C'est pas notre film. Non, encore une fois, pour revenir à cette figure, en effet, c'est ce que vous disiez, Antoine, c'est une figure purement artificielle, et au lieu d'en faire quelque chose, ce film rajoute de l'artificialité à l'artificiel, ça finit par s'annuler. C'est-à-dire que son corps, qui à mon avis est intéressant, ne devient plus intéressant dès lors qu'on l'affuble de l'extérieur de tas de discours afférents qui sont pris en charge par des personnages autres que lui-même. C'est vraiment gênant de ce point de vue.
Ouais, Jodé.
Oui, en fait, quand je parlais de Bardot, c'est que Bardot, c'est les cinéastes de la Nouvelle Vague disaient, c'est comme une sorte de un bout de nature qui surgit au milieu de la qualité française. Il y avait une sorte de surgissement de quelque chose d'absolument naturel. Et là, c'est marrant parce que c'est tout l'inverse. Bon, je trouve que tout le monde joue mal, mais disons que Zaya, c'est le surgissement de l'artificiel et du guindé et de la fausse note au milieu d'un décor naturel. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas Bardot. Au mieux, c'est Jane Mansfield, c'est-à-dire la version absolument cartoonesque.
Bardot est une épouvantable comédienne, on est d'accord quand même là-dessus ou pas ?
Bardot, ça dépend comment il l'utilise en fait. Mais il y avait quelque chose à un moment d'une sorte de sauvagerie incontrôlable qui surgissait. Et ce que je trouve triste, c'est que le film nous dit Zayane est désirable, en gros, par les intellos, qu'en tant qu'elle nous rappelle Claudia Cardinal et Sophia Loren et Brigitte Bardot, alors que pour moi, c'est un monstre au sens étymologique, c'est-à-dire que ce n'est pas une famille, c'est un collage de plusieurs genres de féminité. Et en gros, après avoir plu à des footballeurs, la pauvre fille doit plaire à une cinéaste française qui y voit quelque chose d'autre, Bardot. Laissez ce corps tranquille, on a envie de lui dire. Et on a envie de dire à Zaya aussi, cette chirurgie, c'est pas beau. Et pour poursuivre la scène qu'a décrit Antoine avec Clotilde Courau, il y a, quand elle lui parle de la chirurgie esthétique, il y a un mec qui ajoute « Oh, mais c'est touchant, cette chirurgie esthétique. Je trouve ça, mais terrible de misogynie, de mépris. C'est pas touchant, cette chirurgie esthétique. C'est totalement triste. » Et il aurait fallu, un moment, thématiser et arrêter cette mauvaise foi qui consiste à dire « Zaya est une belle femme. » Non, c'est un monstre de féminité. C'est un corps qui est fait de patchwork, de plusieurs types de féminité, mais qui, pour moi, n'est pas libre du tout. Qui est passé d'une sorte d'aliénation à une autre.
Qu'est-ce que vous êtes dur. Bon, on va s'arrêter là pour Une fille facile de Rebecca Zlotowski, parce que pense que ça...
Une presse excellente, par ailleurs. Hein, donc...
C'est aussi pour ça qu'on est un peu violent, il faut le dire. Moi, si le film était passé inaperçu, je l'aurais défendu.
Ah, la mauvaise foi pointe son nez. Pas, ouais. Oh, bah, elle aurait trouvé.
Non, c'est pas du tout de la mauvaise foi. Hein, mais c'est vrai que je me demande
qu'est-ce qu'ont vu les critiques, en fait. Enfin, vraiment, quand Kechiche est critiqué, que ce film non, c'est bizarre, c'est très très bizarre. Voilà.
To my right is Bounty Law series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt Double Cliff Booth.
That was the best acting I've ever seen in my whole life.
Like you, Rick fucking Dalton.
Et ben voilà, film loué par la critique. Et encore une fois ce soir, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, c'est le coup de cœur d'Antoine Guillot.
Oui, j'étais le premier surpris, parce que les auditeurs de La Dispute s'en souviennent peut-être, mais ça fait longtemps que je dis beaucoup de mal des films de Tarantino, les uns après les autres, quand ils sortent. Ça a commencé avec Boulevard de la Mort
quelle erreur.
En 2007. Ben oui, je me complais dans l'erreur. Pardon, on n'a pas entendu ce que vous avez dit.
C'est mon film préféré, tout simplement.
Au monde, et vous précisez.
Voilà. Et donc, voilà, de film en film, je voyais se répéter le même film qui m'intéressait pas beaucoup, parce que j'ai l'impression que Tarantino tarantinisait sa formule transposée, alors que ce soit transposée dans le monde contemporain, dans le nazisme, dans l'esclavagisme, dans le sud des États-Unis, enfin tout ce que vous voulez. Donc je m'attendais à aller voir encore un autre film de Tarantino, et c'est ce qu'est d'une certaine manière ce film, sauf que tout d'un coup j'ai eu, je ne sais pas, une sorte de révélation que tous ces films à la fois réactionnaire, révisionniste, régressif, ne visait qu'à construire ce monde dans lequel on vit pendant la durée du film, puisque l'histoire, finalement, il n'y en a pas vraiment, sauf ce compte à rebours, l'assassinat de Sharon Tate aura-t-il lieu ou pas. Je crois que ce qui lui importe surtout, c'est de recréer cette Californie qui était celle de son enfance, et en se disant, bah tiens, si moi j'avais pu faire ce cinéma-là avant la prééminence du réalisateur, c'est très paradoxal hein, ce film, avant que grâce à moi, entre autres, des personnages comme Bruce Lee soient universellement reconnus, et donc je vais lui casser la gueule dans le film. Il y a tout un système comme ça qui est atteint d'une mélancolie totale, et moi j'étais très pris par cette mélancolie. On ferait comme si ça pouvait se prolonger éternellement, mais on sait bien que les happy ends du cinéma en général et de celui-ci en particulier sont complètement factices. Ça n'empêchera jamais la mort de venir, ça n'empêchera jamais la ringardisation de tout, et je trouve ça extrêmement émouvant. Et en plus, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ensemble, ça marche vachement bien.
Bon, on ne commande pas les coups de cœur, sinon je...
C'est pour ça que j'en ai fait un coup de cœur.
Je ne m'en priverai pas. Donc, les prochains coups de cœur d'Antoine Guillot seront décernés à Xavier Dolan et François Ozon.
France Culture, La Dispute, Arne Laporte.
Le dernier film à notre affiche ce soir, on reste à Cannes. Palme d'Or 79, Apocalypse Now, qui compte, je le rappelle, l'odyssée vietnamienne du capitaine Willard, dont la mission est d'éliminer le colonel Kurtz, militaire sur lequel sa hiérarchie n'a plus d'autorité et qui fait un peu n'importe quoi au Cambodge, je résume. On sait que le film a été inspiré par le livre de Conrad Au cœur des ténèbres, ça fait rire Lucille Comment.
J'aurais tellement aimé dire ça, parce qu'après j'ai plus rien à dire.
D'accord. Alors c'est un film qui lui n'a cessé de revenir sous différentes formes depuis 40 ans. Donc 79 Apocalypse. Non, 91, merveilleux documentaire Au cœur des ténèbres, le making of... à nul autre pareil, vraiment, qui montre non seulement tous les défis, mais toutes les embûches qu'a dû affronter Coppola, pas loin de devenir fou quand même, ainsi qu'une bonne part de son équipe. Il y a eu en 2001 un nouveau montage du film, Apocalypse Now Redux, 50 minutes de film en plus, notamment ce long segment sur la plantation française qui n'était pas du tout dans l'original. Et voici donc que le maestro nous propose aujourd'hui une troisième version, durée 3h03, plus longue que la première, plus courte que la seconde, et également entièrement restaurée grâce aux techniques numériques les plus modernes.
You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the colonel's command.
Terminate with extreme prejudice.
I love the smell of napalm in the morning.
Very obviously, he has gone insane.
This is the end, my only friend, the end.
Are you an assassin? I'm a soldier.
Apocalypse Now, Final Cut. En tout cas, c'est ce que nous dit Francis Ford Coppola. Synthèse de votre opinion sur ce film, Muriel Jodet.
Je l'ai revu il y a 3 mois et j'étais déçue, notamment parce que une semaine avant, je découvrais Requiem pour un massacre d'Elem Klimov. Voilà, ma vie.
Ah ben, je comprends voilà, un peu votre dureté envers Zayat Dehar maintenant. Antoine Guillot.
C'est toujours une expérience étrange de voir ce film et c'est très beau. Je trouve qu'il, comme un être vivant, qu'on le retrouve jamais pareil, qu'il pulse comme ça. Alors il grandit, il rétrécit et comme de toute façon quand on voit un classique, c'est jamais le même selon le moment où on le voit. Ben là, littéralement, ce n'est jamais le même.
Mais Lucille, comment ?
Encore moins, oui, je peux.
Oui, alors, et avoir un autre avis d'ailleurs. Différent.
C'est encore moins le même que c'est la première fois que je le vois, donc un peu écrasé par. Par l'œuvre, disons.
Alors, qui commence ? Antoine Guillot.
Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que j'ai évidemment pas eu du tout la même expérience que Lucille, parce que pour le coup, c'est un film que je connais bien, dont il est difficile, en plus, de s'abstraire de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que le making-of dont vous parlez, tout ce qu'on racontait, les différents acteurs témoins du film. Et pourtant, je pense que c'est la seule fois où je me suis laissé complètement embarquer par le film. Sans doute parce que ce n'est pas comme une première fois, on se dit « Ouh là là, mon Dieu, je vais voir Apocalypse Now, quoi. Il faut que je me prépare ». Ce n'est pas vraiment comme quand on voit la version Redux en se disant « Tiens, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau ? Qu'est-ce que ça arrive ?» J'ai pas décelé tout ce qui avait changé. J'ai plus le sentiment de quelque chose d'une sorte de contraction. C'est-à-dire que ces 3 heures de projection sont passées à toute allure pour moi. Donc je pense qu'il a dû toucher des plans ici et là qui accélèrent le rythme tout en donnant ces moments de stase qui sont très importants dans le film. Et en même temps, j'en ai vu toute l'artificialité qui me plaît beaucoup. Et je crois que la première fois qu'on le découvre, on est pris dans ce sort de trip sous acide. D'ailleurs, ça commence comme ça, avec un personnage qui a tellement d'images dans la tête qui viennent du passé, du futur, de maintenant, et qui sont aussi celles du film. On se rend compte que la temporalité et l'adéquation entre la voix off, puisqu'il y en a encore une dans ce film-là, et les images qu'on voit ne sont pas toujours complètement en raccord, sauf que là, ce que je voyais, c'était les petites loupiottes de Vittorio Storaro sur le pont dans cette scène où l'armée américaine est en pleine défaite, en pleine déliquescence, sont l'utilisation surtout des fumigènes qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on pourrait ne regarder le film qu'en se disant, mais tiens, d'où vient cette fumée ? Pourquoi il y a une fumée ici ? Il n'y a aucune raison qu'il y ait une fumée, sauf l'envie de Storaro de mettre une touche de jaune ici, une touche de violet, le purple haze dont il est question à un moment... dans le film, et plus on remonte ce fleuve, qui est un trajet presque philosophique vers la sauvagerie de l'homme, enfin vers l'horreur qui habite chaque homme et dont on aura beau tuer la personne qui l'incarne à ce moment-là, il y aura toujours quelqu'un pour la remplacer ensuite. Plus on remonte, plus on tombe dans une sorte de scène de théâtre ou d'opéra dément. C'est l'amour de Coppola pour l'opéra où ce ne sont plus que des signes qui sont là pour nous faire perdre toute raison. Quoi. Ça reste une expérience toujours fascinante, quelle que soit la façon dont on la vit.
Alors quand c'est la première fois, Lucille Comeau, ça se passe comment ?
Alors c'est drôle ce que vous dites Antoine, parce que moi pour le coup je crois que c'est une forme d'artificialité qui pour le coup m'a beaucoup marquée. Moi qui ne l'ai jamais vu et qui n'ai donc aucune idée du montage par rapport aux versions précédentes, j'ai beaucoup vu le montage, j'ai beaucoup vu des séquences les unes après les autres et la manière dont c'était construit. C'est-à-dire que dès le départ,
Il y a une sorte de friction entre le point de vue qui est donc le point de vue du personnage principal qui a aussi en charge la voix off, dont on voit toujours les yeux, il y a beaucoup de plans sur ses yeux, il est souvent ébloui, il a la sueur qui goutte sur ses paupières, et la manière dont le film est construit est assez aussi en permanence entre en effet sa propre folie qui nous est montrée dans une première séquence de ce point de vue assez spectaculaire, et en même temps le fait que c'est tout de même un homme de guerre, on est tout de même dans un film de guerre, donc quand il est en condition, il a des moments de décision rationnelle, il structure en quelque sorte son équipe autour de lui quand il est sur le bateau. Et cette oscillation-là, entre les moments, disons, tripés, où vraiment là l'esthétique années 70, années 80 abonde dans l'utilisation des lumières, de la musique, la manière dont la caméra bouge et la structure quand même assez hiératique finalement du film qui est une descente aux enfers par paliers assez identifiables qui crée des séquences assez successives m'a un peu déçu, je dirais, vers la fin, c'est-à-dire que j'ai vraiment un problème avec les séquences finales que j'aime beaucoup moins que ce qui précède, et donc du coup quand je suis sortie, je revisitais un peu tout à l'aune de cette séquence finale, et ça s'est vraiment cristallisé, c'est un peu bête hein, mais sur une image, le fait que ce taureau qui est sacrifié à la fin en même temps, avec un montage parallèle, en même temps que le colonel Kurtz, on l'ait déjà vu soulevé par un hélicoptère au début du film dans une des premières scènes de combat. Je me suis dit, ah oui, mais en fait, tout est pensé, tout est ultra réfléchi, il y a des parallèles partout, finalement c'est assez binaire tout ça, et ça évolue de manière extrêmement rationnelle, tout comme le personnage nous mène à quelque chose d'extrêmement rationnel. Bon, j'ai pensé à Herzog, par exemple, en permanence, je me suis dit, bon, voir ça, c'est à peu près la même expérience, j'imagine, que voir Aguirre pour la première fois, ça m'a pas du tout fait le même effet. Aguirre, j'étais dans la pure temporalité du récit, jamais un seul moment, je n'ai noté d'éléments de structure, je pense que c'est la première fois que je l'ai vu. Là, j'étais quand même très sur la structure comme un film hollywoodien finalement assez classique.
Ouais, vous n'avez pas le même âge peut-être la première
peut-être.
Fois que vous avez
oui,
vu
ça, c'est, ça c'est absolument sûr que j'ai pas le même âge.
Voilà. Muriel Jodet.
Non, je rejoins mes camarades sur l'artificialité. Alors peut-être sur ces différentes versions, ce qui est assez beau, c'est que ça concerne surtout cette dernière version Coppola lui-même, c'est-à-dire que c'est là où se trouve le point de sa folie. En fait, il est toujours fou concernant ce film. C'est un peu l'ex qu'il n'arrive pas à oublier. Mmh. Et ça, c'est très très beau ce que ça dit sur Coppola. Quand même, hein, faut imaginer, il retouche à ce film alors que ce film a été célébré, vu qu'il existe, que c'est un très grand film, un grand chef-d'œuvre. Et je trouve ça magnifique.
D'ailleurs, excusez-moi cette incise, mais le film commence par un petit clip où Coppola nous explique pourquoi il a refait ce film. Et si quelqu'un a pris un coup de vieux, c'est moi le film que Coppola lui-même...
Sauf dans la salle où nous l'avons vu de l'autre côté de la scène, en face de la maison de la radio. Et j'ai trouvé ça un peu... J'ai lu après qu'effectivement, il y avait normalement cette introduction de Coppola auquel on n'a pas eu droit. À laquelle ?
Et c'est vrai que sur l'artificialité, moi aussi, en le revoyant, je ne pensais qu'au tournage, parce que ce film illustre totalement la phrase de Rivette, un film est toujours un documentaire sur son propre tournage. Ce film est un film tournage. C'est même un film sur un tournage. Et ce qui est très beau, en fait, c'est que Coppola fait un film de guerre, mais il a voulu faire un film guerre, comme il le dit dans le documentaire que j'ai découvert hier, Au cœur des ténèbres de 91.
Ah oui, vous l'aviez pas vu.
Voilà, pour réviser, je me suis dit, c'est formidable. Le moment, c'est très très beau. Et il dit, on avait trop d'hommes, trop de moyens, on était au milieu de la jungle, bref, c'était la guerre. Donc en fait, vivre la guerre, c'est reproduire les conditions de la guerre sur un tournage. Ça, je trouve ça vraiment très beau, et ça se sent dans le film. Et je connaissais pas vraiment les termes de cette folie généralisée, mais c'est vrai que voilà, Martin Sheen a failli mourir, etc. Et ce que je trouve...
L'ouragan, enfin le typhon.
Voilà. Enfin, moi, et puis Denis Hopper qu'on découvre vraiment fou. Je pensais que Denis Hopper surjouait une sorte de folie, mais en fait, il était
sobre dans le film. À l'écran, voilà. Il est sobre par rapport au tournage.
Et la deuxième belle assimilation, en fait, c'est entre la guerre et le grand spectacle c'est américain. C'est-à-dire que ça demande les mêmes moyens. Et à un moment, il le dit, je crois que c'est Vittorio Storaro, le chef opérateur, qui dit, Coppola m'a dit, faut pas que ce soit juste un documentaire, faut que ce soit du grand spectacle. Les Américains, ils font les choses en grand. Et le terme est dit dans le film, c'est Disneyland. Et clairement, c'est là qu'on voit les ficelles du film, c'est qu'on voit en fait un bateau avancer d'une attraction à une autre. Et c'est là que pour moi, c'est peut-être un peu trop conscientisé, quadrillé, la folie du film, l'hubris du film est peut-être trop cadré, là où chez Herzog, comme le mec est vraiment fou toujours depuis le début, il y a quelque chose qui échappe au film. Et je préfère peut-être le Coppola moins hubris, plus sentimental, plus fordien, puisqu'il a fait un autre film sur la guerre du Vietnam, qui est Jardin de Pierre, ou qui se passe en fait
en Amérique et on voit les cercueils revenir. Mm. Pour moi, c'est le film qui me... Je pense que c'est mon film de Coppola préféré. Je sais que c'est coup de cœur, vous. Mm. Moi, c'est Jardin de Pierre, qui pour moi est en fait le hors-champ de Apocalypse Now et qui... C'est le Coppola que j'aime, sentimental, affectueux, et aussi prenant en charge les personnages féminins. Moi, ça me dérange pas du tout qu'Apocalypse Now soit une sorte d'énorme garçonnière.
C'est un peu la guerre du Vietnam, c'était un peu compréhensible.
Non, mais il y a aucun problème. Voilà. Mais dans les années 80, l'affectivité surgit aussi avec les personnages féminins.
Non, mais comme vous l'avez dit, Coup de cœur étant mon film préféré au monde.
Voilà.
Pour reprendre le terme de le cycle. Non, mais ce qui est fascinant, c'est qu'il fait Coup de cœur 2 ans après Apocalypse Now. Et là, c'est encore plus vertigineux de se dire à quel point Coppola est immense. Coppola est au-dessus de tout pour moi. Et la simple succession de ces films le montre bien. Et puis, il y a quand même... Alors, il n'y a pas de femme, mais alors, quels hommes, quels comédiens? On parlait de direction d'acteur tout à l'heure. Bon, Martin Sheen, qui est donc ce personnage principal. Puis, on va avoir successivement des grands moments pour Robert Duvall, notamment. Puis, Dennis Hopper, en effet fou. Marlon Brando, ce qui est quand même un cas à part. Mais je ne me rappelais plus... Enfin, je ne sais pas s'il a changé de montage à ce moment-là. À quel point il retarde juste... le plus loin possible l'apparition.
C'est décevant, ouais.
Ah, mais non. Mais pas, vous trouvez ça décevant?
Moi, je suis pas fan de Brando. Enfin, moi, Robert Duvall est mon idéal d'acteur.
On est d'accord.
Ce qui est très beau, en fait, c'est de voir un cinéaste désirer ses acteurs masculins. Moi, j'adore ça au cinéma. Tarantino aussi. On sent que sa libido passe totalement dans les acteurs qui filment.
Mais les plus beaux plans de Brando sont ceux de très très loin, quand le feu a pris et qu'il repart marchant dans cette maison dans le feu. Il a une allure folle de très très loin. Et puis Frédéric Forest, qu'on retrouvera à l'affiche. Notamment de Coup de cœur 2 ans après, qui a essayé une magnifique moustache. Vous vouliez intervenir à nouveau, Lucine Como?
Moi, ce que j'ai appris du coup après, que la séquence en effet dans la plantation française n'avait pas toujours existé dans le film.
Elle n'était pas du tout en 79.
Moi, je pense que c'est vraiment la séquence que je préfère, aussi parce qu'elle recolle au roman de Conrad et que du coup toute la question de l'archaïsme du roman colonial se rejoue à ce moment-là, et que la position de pur spectateur dans laquelle se retrouve le personnage principal.
Les marines, enfin la petite troupe qui remonte le fleuve. Se retrouve dans une plantation.
De fait,
dans une plantation où ils tiennent les Français depuis 70 ans.
Et où se joue un autre combat qui n'a pas évidemment les mêmes termes, et ils se retrouvent à débattre justement des termes de leurs combats respectifs. Et évidemment, l'œil américain ne peut absolument pas appréhender ce que sont les revendications de la famille française, avec cette espèce de patriarche qui donne un dîner, c'est très théâtral pour le coup, dîner dont chaque convive quitte finalement la table pour des raisons politiques qui ne sont absolument pas compréhensible pour un Américain. Il y a un débat complet, mais c'est presque comique. Il y a un côté burlesque, il y a un accordéon derrière, ça n'a aucun sens. Donc, oui, notamment un type qui commence à s'exciter sur la différence entre socialisme et communisme. Moi, je trouve justement que dans le côté très artificiel, très théâtral, et puis en plus il y a la langue française qui intervient, ça fait toujours un effet d'étrangeté, se joue quelque chose justement sur le point de vue du personnage principal qui est passionnant et encore une fois assez même émouvant dans l'espèce d'hommage que ça peut rendre au roman de Conrad.
Antoine Guillot.
Sauf que ce sont des fantômes, très explicitement. Enfin, c'est absolument impossible déjà qu'il y ait une plantation coloniale française encore à cette époque-là.
Sans passer le pont.
Au Vietnam, depuis la défaite de Dien Bien Phu, tout ça, c'est fini. Donc, effectivement, il y a des fantômes et il y a des personnages qui sont presque déjà morts. Et il va jusqu'à la rencontre de cette idole en pierre qu'on a vue dès le début, dans le générique de début. La manière d'émerger Marlon Brando, qui là est lui-même devenu complètement minéralisé, une sorte de bloc. Comme ça arrive vers la fin totale de toute vie. Mais la fin de la vie, c'est aussi l'apaisement. Donc le film est très ambigu là-dessus.
Bon, Muriel.
Non, juste
très rapidement.
Ce que je trouve très beau en voyant le documentaire, je me suis dit, en fait, il veut faire du grand spectacle, mais c'est le stade terminal. Il veut aussi exploser le grand spectacle américain. C'est ça qui est très beau dans le film. C'est à la fois faire le plus grand spectacle hollywoodien et en même temps tout détruire.
Ouais, c'est pas Heaven's Gate, la fin du nouvel Hollywood.
Voilà.
C'est Apocalypse Now.
C'est ça.
Final Cut aujourd'hui de Francis Ford Coppola en version restaurée. Alors, il y a certaines salles en France qui sont des salles dites Dolby. On a fait l'expérience avec Lucille Como, ça vaut la peine, vous l'avez vu
Non, au Christine.
Non, mais on n'est pas là pour donner de la publicité sur les salles de cinéma, quoi qu'on peut le faire.
C'est une salle de quartier,
pour
donc
Christine.
Il n'y a personne.
Non, il y aura plein de monde.
Moi, je l'ai vu dans une salle de quartier, du quartier latin, extrêmement remplie. Sans les effets un peu grand barnum du son tel qu'on le fait maintenant.
Grand barnum, c'est ce que veut Coppola, alors allez voir ça avec Francis.
On peut dire qu'il fait du grand barnum, c'est pas forcément une critique.
Bon. Les snobs. Ce sera en Blu-ray aussi, dès le 18 septembre, chez Pathé.
avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui d'abord nous rappelle la question du jeu d'hier soir et nous rappelle sa question de d'abord, c'est mieux.
Dans quel mouvement artistique Kerr Xavier Roussel a-t-il évolué ?
La réponse ?
Le mouvement Nabi.
Ce soir, des invitations gagnées pour le festival Climax, festival écologique qui a lieu du 5 au 8 septembre à Bordeaux. La question, David ?
Quel est le thème de la 5e édition du festival Climax ? Et la réponse est l'Amazonie.
Ah bah, la réponse, non. Pas de réponse, la réponse, David. C'est la faute de la fin de première semaine. Vous le saurez lundi. La bonne réponse, vous l'envoyez à vos coordonnées postales, tout ça, auditeurfc@, elle ne l'a pas dit en entier. auditeurfc@radiofrance.com. Émission préparée par Issa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinot et David Danard. Prise de son, Valentin Bobinet, réalisation Alexandre Fougeron. Lundi, théâtre avec Lucille Comeau, Laura Capel et Anna Sigalevitch. Nous parlerons de Lewis vs Alice, d'après Lewis Carroll, de Macha Makeyev. Les témoins de Yann Rezo, en ce moment la Manufacture des Abbesses. Et puis un livre contre le théâtre politique d'Olivier Neveu aux éditions La Fabrique.